aujourd'hui, Eric Manila qui est avec vous dans cette édition spéciale de sur la présidentielle américaine. Michel Claire Joseph assure la mise en onde. Je suis dans ce studio avec Timothée Donangmaï. Timothée, bonjour.
Bonjour, Eric.
Ça aura été une longue nuit, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Qui a commencé très tôt ce matin?
Une journée qui a commencé très tôt ce matin avec les millions d'Américains qui se sont rendus aux urnes pour élire non seulement leur président et vice-président, mais également une foule d'autres responsables au niveau national et au niveau local.
Voilà, nous allons parler donc des nouvelles tendances qui se dégagent et qui portent le total de grands électeurs à 248 pour l'ancien président républicain Donald Trump et 214 pour la vice-présidente démocrate Kamala Harris. Timothée Donangmaï, ça, ce sont des résultats que la Voix de l'Amérique peut confirmer, mais il y a d'autres résultats qui sont projetés par d'autres médias américains, mais pour l'instant, la Voix de l'Amérique ne peut que donner ses résultats.
Tout à fait, Eric, et il faut dire que l'une des grandes victoires de Donald Trump ce soir, c'est celle en Caroline du Nord. L'ancien président a fait de la Caroline du Nord une pièce maîtresse de sa stratégie pour gagner, pour retourner à la Maison-Blanche. Et les trois derniers jours de campagne, il a été chaque jour dans cet état-là pour battre campagne. Donc c'est la preuve que cet état est un état clé dans sa stratégie et il a remporté, et en fait c'est la troisième fois qu'il s'impose, qu'il remporte la Caroline du Nord depuis 2016, il a gagné en 2016, 2020 et maintenant 2024. Donc un état important. La vice-présidente Kamala Harris aussi a essayé de battre campagne là-bas et dans l'espoir de faire tomber cet état dans sa cagnotte, mais ce n'a pas été le cas. Donc c'est Donald Trump qui s'est imposé là-bas.
Et l'état de Géorgie est tombé dans le camp un républicain. C'est un état que Joe Biden avait gagné en 2020. On va y revenir. D'ailleurs, Donald Trump qui doit s'exprimer dans les prochaines minutes. Il a quitté donc la Maison Blanche en 2011 et il est à Palm Beach en Floride, son état de résidence où il a voté ce mardi en 2021. Justement. Alors, la démocrate née d'un père jamaïcain et d'une mère indienne organise sa soirée électorale dans son ancienne université, l'institution historiquement noire Howard à Washington. La directrice de campagne de Kamala Harris a reconnu mardi soir que le chemin le plus clair pour l'emporter passait par le Wisconsin, la Pennsylvanie et le Michigan, soit seulement trois états clés sur les sept enjeux selon un message à ses équipes. Alors, nous sommes en ligne avec des analystes et d'autres personnes qui ont suivi cette nuit électorale ici aux États-Unis et ailleurs en Afrique et au Canada. Nous sommes en ligne avec Joël Vitiello qui se trouve à Minneapolis dans le Minnesota. Joël, bonjour.
Oui, bonjour Eric.
Oui, donc le Minnesota, c'est l'état de Walz, Tim Walz, qui est le colistier de Kamala Harris. Joël, les résultats qui sont déjà projetés, comment vous les interprétez? Quel est votre sentiment?
Alors, dans le Minnesota, c'est intéressant parce que la nuit a commencé avec Donald Trump en tête. Et puis, à un moment donné, il y a eu cette inversion. Et donc, pour le moment, c'est un petit peu serré, mais Kamala Harris est en tête dans le Minnesota. Ce n'est pas tellement étonnant parce que les villes jumelles, Saint-Paul, Minneapolis, Duluth, sont généralement de tendance démocrate, tandis que le reste de l'État a voté beaucoup plus républicain. Alors, pour les résultats généraux, Eric, nous avions eu une discussion cet après-midi et je pense qu'on projetait des résultats un petit peu différents. Donc, il y a des effets quand même de surprise pour moi, en tout cas.
Oui, on va en parler tout à l'heure, Joël. Nous allons maintenant parler à Ismaël Diallo qui se trouve à Ouagadougou, au Burkina Faso. C'est un ancien député burkinabé, Ismaël Diallo, qui suit de près la politique américaine et sa famille vit à Atlanta, dans l'état de Géorgie. Ismaël Diallo, bonjour.
Bonjour.
Il est 7h05 chez vous, au Burkina Faso, mais vous restez toujours debout pour suivre ce qui se passe. Quel est l'impact de la présidentielle américaine en Afrique et chez vous au Burkina Faso?
Comment? Excusez-moi, j'ai été un peu distrait.
Oui, l'impact de la présidentielle américaine sur votre pays et sur le continent africain.
Well, vous savez qu'en Afrique, et les Africains en général sont passionnés de politique et suivent surtout ce qui se passe aux États-Unis de manière très soutenue. C'est un peu comme le football. Donc il y a beaucoup qui certainement n'ont pas dormi de la nuit pour suivre ces élections. Et beaucoup, je pense, seraient également déçus de constater que Kamala Harris ne sera pas élu, probablement.
Oui, quel est votre sentiment? Comment vous interprétez cette élection? Est-ce que vous avez été surpris par les résultats qui tombent en ce moment?
Très honnêtement, je ne suis pas surpris parce que, avec toutes ces décennies d'observation, de connaissances du terrain, je m'attendais très peu à ce que Kamala Harris gagne les élections. Je l'espérais, parce que je pense, j'aimerais bien voir une femme présidente des États-Unis. Mais je ne me faisais aucune illusion quant à la qualité ou à la transformation des relations entre les États-Unis et l'Afrique. Beaucoup d'Africains ont été déçus de constater que Barack Obama a été le président des Américains et des États-Unis, mais pas le président des Africains, comme beaucoup s'illusionnaient. Donc, je ne me faisais pas beaucoup d'illusions, ou je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Et je vous dirais, très honnêtement, vous et moi, que je ne suis pas fâché de voir Trump revenir aux affaires, s'il revient aux affaires, parce qu'il a l'avantage d'être brutal, d'être clair, d'être limpide dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Il est très calculateur, même s'il est... Il a des outrances et il est vulgaire souvent. Il n'est pas bête du tout, il est très intelligent. La preuve, il a su comment strategize, comment mener sa campagne électorale pour gagner les États avec les grands électeurs. Les choses, comme on dit dans la rue, vont bouger plus avec Trump à la Maison-Blanche qu'avec un démocrate à la Maison-Blanche. Même si beaucoup l'oublient, les démocrates ont été à l'initiative de plus de guerres des États-Unis que les républicains.
Nous avons Nyaka Lagoké qui se trouve en Pennsylvanie, Timothée. Et la Pennsylvanie, c'est un état crucial. Si l'un des candidats gagne cet état, l'espoir est permis.
Tout à fait.
Oui. Et Nyaka Lagoké, vous êtes là, vous nous entendez? Nyaka Lagoké? Nyaka? Je pense que nous avons un petit problème de contact avec notre invité qui est en Pennsylvanie, Nyaka Lagoké. Nous allons essayer de rétablir la communication. Alors, Joël Vitiello, comment vous voyez l'avenir de l'Amérique?
Écoutez, ça va dépendre un peu des résultats finaux, si on peut dire. Je ne sais pas. On va avoir deux Amériques différentes selon le candidat élu, évidemment. Je pense que la campagne présidentielle de Donald Trump a suscité beaucoup de soucis, à la fois par la violence de sa rhétorique, par des appels, des remarques absolument déconcertante sur la population immigrante, en particulier haïtienne. Tout le monde se souvient de ses remarques sur les immigrants haïtiens de Springfield, qui a suscité beaucoup de réactions négatives, y compris de son propre parti. Ça a été une campagne avec énormément d'insultes sexistes, voire presque racistes, envers non seulement Kamala Harris, mais aussi envers les populations migrantes, envers les femmes. On se souvient des remarques de son vice-président. Donc ça laisse planer un grand doute sur comment la gestion du pays va se faire dans l'avenir si Donald Trump est élu président.
Oui, les républicains avaient aussi
par rapport au climat, par rapport à toutes sortes de politiques, voire financières aussi. C'est un peu l'inconnu.
Oui, vous avez parlé de cette rhétorique violente reprochée à Trump, mais les républicains ont reproché la même chose à Kamala Harris et aux démocrates qui traitaient Donald Trump de raciste.
Disons que d'un côté, c'est appuyé sur des faits, je dirais quand même un vocabulaire qui est bien défini. Et de l'autre, il y a eu des appels quand même presque à la violence, des menaces, l'idée que on va se retourner contre les dissidents du pays, sur les gauchistes. Ça soulève quand même beaucoup d'inquiétudes. Parce que je ne pense pas que les deux côtés aient eu la même teneur dans la valeur des propos.
Niakara Goké est avec nous. Restez là, Joël Vitiello. Nous poursuivons notre discussion. Niakara Goké, bonjour.
Bonjour, Eric.
Oui, vous êtes en Pennsylvanie, mais avant de dire ce qui se passe là où vous êtes, sur cet aspect de la campagne électorale, la rhétorique, c'est une reproche qui a été faite à la fois envers les républicains et envers les démocrates.
J'ai entendu la dame qui parlait tout à l'heure du niveau de violence dans la narrative ou bien dans le langage qui a été utilisé par Donald Trump. Et d'après ce qu'elle dit, cela augurerait de la façon dont le pays va être dirigé. Tout le monde connaît Donald Trump. Il a son playbook, il a sa façon de fonctionner. Et quand on n'est pas d'accord avec lui, donc il n'hésite pas à attaquer les gens. Mais je pense que il ne faudrait pas qu'on perde trop de temps sur ces éléments. Parce que ce qui s'est passé, Eric, tu te souviens, quand il y a deux ou trois heures de temps, quand j'ai vu la tendance, c'est vrai que j'avais des amis qui croyaient que Trump allait gagner l'élection. Moi, j'étais un peu loin de cela, doutais un peu. Et puis, depuis quelques jours, je me suis intéressé à la politique, en fait, à tout ce qui s'écrivait, on savait qu'il y avait une certaine volonté de la part de l'establishment américain, porté par les médias, pour que Donald Trump ne soit pas le président des États-Unis. Avec ce qu'on voit aujourd'hui, qui pourrait même être ce qu'on appelle l'inslade aux États-Unis, il y a quelque chose, une chose à laquelle les démocrates doivent faire attention, et qui va au-delà de tout ce qu'on peut dire de Donald Trump comme étant quelqu'un qui est un homme des anti-valeurs. Et pour moi, c'est ce à quoi il faut penser. Si on a l'occasion, on pourra aller dans les détails. Il y a certainement des facteurs qui ont joué en défaveur de Kamala Harris. Elle n'a pas bien porté son message. Elle n'a pas pu porter un message particulier dans la mesure où elle n'a pas eu le courage de se dissocier de certaines politiques de Joe Biden et qui n'a pas voulu quitter la course à la présidence, qui a été forcé à le faire seulement il y a trois mois. C'est vraiment difficile de pouvoir s'organiser véritablement dans une élection présidentielle américaine à trois mois de l'élection, même si on avait le soutien de toutes les stars ou bien des célébrités comme le Obama ou bien Taylor Swift. Voilà un peu ce que je peux dire pour commencer la conversation.
Merci, Nyaka Lagoké. Nous allons maintenant à Montréal, au Canada, pour retrouver Thierry Matiko, qui suivait cette nuit électorale depuis l'après-midi de ce mardi. Je pense qu'on n'a pas encore Thierry en ligne. Nous poursuivons donc notre édition spéciale sur la présidentielle américaine. Dans quelques instants, nous reprenons notre discussion. Vous suivez toujours la voix de l'Amérique, c'est VOA Afrique, Eric Manirakiza avec vous, Timothée Donangma est avec moi dans ce studio. Timothée, y a-t-il d'autres résultats à communiquer à notre public?
Bon, pour l'instant, selon notre carte ici, à la Voix de l'Amérique, on est toujours à 214 grands électeurs pour Kamala Harris contre 248 pour l'ancien président Donald Trump. Et il est clair que plusieurs médias américains ont d'autres chiffres, mais ce que nous donnons ici, c'est des chiffres que la Voix de l'Amérique a pris la peine de vérifier avec les principales agences de presse. Donc c'est ce résultat que nous donnons ici. Et Eric Nyaka Lagoké le disait tantôt, la vice-présidente Kamala Harris a bénéficié du soutien de plusieurs personnalités, dont l'ancien président Barack Obama, plusieurs stars du show business, du monde du sport et tout cela. Et pendant ce temps, en face, Donald Trump était un peu one man show. C'était lui qui battait campagne partout, qui allait dans 3, 4, 5 événements le même jour. Et c'est grâce à cet effort-là qu'il obtient les résultats qu'on voit ce soir.
Oui, merci Timothée pour toutes ces précisions. Michel Joseph me fait signe que nous avons le contact avec Thierry Matiko qui se trouve à Montréal. Thierry, bonjour.
Bonjour.
Oui, Thierry, vous suivez donc le déroulement de cette élection depuis le matin de ce mardi. Vous êtes toujours debout. Votre réaction par rapport à ce qui se passe et d'abord, pourquoi vous avez consacré tout ce temps à suivre la présidentielle américaine?
Bon, effectivement, je suis debout jusqu'à cette heure-ci. Je n'ai pas encore fermé l'œil. Et pour vous dire que les élections aux États-Unis, c'est très important pour la région Afrique, Amérique, tout ça. Mais voilà, j'attendais ça avec impatience, avec incertitude aussi. Mais je dois dire aussi avec anxiété. Voilà.
Et quel est votre intérêt?
L'intérêt, c'est la tendance entre les deux candidats présidentiels. Donc, je pense que c'est une Amérique vraiment divisée et j'étais impatient de voir quelle Amérique qui va gagner parce que il y a un candidat qui avait son cheval de bataille pour des questions économiques, pour des questions en rapport avec l'immigration. Mais on a vu une candidate qui avait aussi son cheval de bataille, qui était le droit à l'avortement, qui attirait beaucoup plus les femmes. C'est ça qui m'intéressait beaucoup pour voir le choix des Américains, ça sera finalement quoi. Et voilà que le jour J vient d'arriver.
Nous avons également en ligne Alassane Ndiaye, fondateur du cabinet Rayon Investment à Johannesburg en Afrique du Sud. Alassane, bonsoir et bonjour plutôt.
Alassane. Oui, bonjour, bonjour.
Oui,
vous m'entendez?
Oui, je vous entends très bien. Vous avez suivi donc les tendances confirmées par la Voix de l'Amérique que mon confrère Timothée Donangmaï a donné tout à l'heure. Est-ce que ce sont des résultats qui vous surprennent, vous, personnellement?
Non, pas du tout. En fait,
je l'avais même annoncé sur d'autres médias il y a pratiquement 5 jours. Et pour moi, c'était plus que prévisible. Plus que prévisible, mais bon, bien sûr, ça reste une élection, donc on n'est jamais à l'abri de surprises. Mais là, il n'y a pas eu de surprise. Donc oui, pour moi, c'était prévisible.
Oui, vous vous trouvez en Afrique du Sud, à Johannesburg. Est-ce que c'est suivi largement là-bas? Que disent des personnes qui autour de vous?
Oui, non, bien sûr, c'est suivi, bon, je veux dire ça, tout le monde le sait, c'est suivi sur la planète entière, parce que le devenir justement de l'administration américaine a un impact direct sur la vie économique, politique et même par ricochet social dans le reste de la planète. Donc oui, c'est suivi, c'est des discussions dans les différents réseaux sociaux et en échange avec pas mal d'amis, de contacts. Donc que ce soit dans le cadre professionnel ou dans le cadre purement social, c'est les discussions que, du moins, tout le monde suit ça, hein, de très près.
Et quelles sont les attentes des Sud-Africains par rapport à cette élection américaine?
Les attentes, disons, au niveau, du moins, c'est ce que je perçois, hein, parce que bien sûr, moi je ne fais pas partie donc de l'administration sud-africaine, mais les attentes, en fait. Et c'est là, je crois, qu'il y a eu pas mal de malentendus, parce que tout le monde, de manière générale, un peu va dans le sens de ce qui a été présenté comme l'image de Trump, celui qui n'est pas du tout pour les Noirs, pour la population noire, ainsi de suite. C'est vrai, c'est pas faux, c'est vrai, mais la vérité qui va avec, c'est que Trump, c'est quelqu'un qui est purement business, c'est quelqu'un qui ne cherche pas justement à être dans des relations basées sur l'aide, basées sur des sentiments et ainsi de suite. Et donc avec Trump au pouvoir, on a finalement une occasion d'avoir des relations plus objectives et des relations qui seront purement basées sur du business. Et comme beaucoup aiment le dire, et ça justement c'est le moment, comme on dit, de walk the talk, c'est que beaucoup de dirigeants, surtout les classes dirigeantes, les nouvelles qui émergent en Afrique, ils aiment dire que non, nous on veut pas de relations basées sur l'aide, on veut des relations basées sur du commerce, parce que justement on a des ressources, on a tout ce qu'il faut, et donc si on doit commercer, si on doit échanger avec le reste du monde et surtout avec l'Occident, il faut que ça se fasse sur des bases purement commerciales. Mais donc voilà, donc c'est ce qui va se faire avec Trump.
Et merci Alassane. On va il nous reste très peu de temps, et quelques minutes à partager avec les autres invités. Ismaël Diallo, maintenant, dans quelques heures, on saura peut-être le candidat vainqueur. Comment vous envisagez la suite avec le monde? Ismaël Diallo? Je pense qu'il y a un petit problème avec Ismaël Diallo. Niakara Goké, vous êtes là, vous nous entendez, vous nous suivez? Niaka?
Oui, je suis là.
Oui. Alors, l'inflation et l'immigration, deux thèmes majeurs de Donald Trump, est-ce qu'on peut dire qu'il avait vu juste, disons, les deux thèmes qui ont convaincu les Américains?
Bon, comme il n'y a pas beaucoup de temps, bon, d'abord, il faut savoir que Trump a été déclaré déjà vainqueur. C'est vrai que vous avez vous suivez vos résultats à vous.
Il y a des médias qui le déclarent vainqueur, mais la voix de l'Amérique ne l'a pas.
Oui. Allô? Je vais terminer. Il a été déjà déclaré vainqueur par plusieurs médias. Il a, selon certains sites, il a déjà 266, donc il a 4 mains. D'autres ont déjà déclaré qu'il y a 277 collèges électoraux. C'est vrai que l'immigration, comment je vais essayer de répondre d'une certaine façon. C'est vrai que Trump est pro-business. Mais en même temps, ce qu'il faut savoir, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Trump, je ne dirais pas qu'il est un fasciste, mais il est perçu par une certaine Amérique profonde comme étant quelqu'un qui est un peu le messie de la race blanche qui est en désarroi et qui semble en train de perdre le contrôle sur le pouvoir mondial. Et donc, c'est comme cela que beaucoup de gens le voient. Mais en même temps, il a mené une campagne intelligente. La question de l'économie, c'était un problème fondamental. Quand on a vu les exit polls, qu'il y a eu ceux qui sont insatisfaits et ceux qui sont fâchés, quand on les met ensemble, ça fait plus de 70%, c'est ce que CNN a déclaré. Avec cela, déjà, on savait que ça va être difficile pour Kamala Harris de gagner l'élection.
Je dois vous interrompre parce que la
question de la guerre d'Israël a été un peu aussi en défaveur de Kamala Harris.
Oui, Nyakara Goke, il y a le président Trump là qui prend la parole, qui va dire un mot, qui va s'adresser à ses partisans, à ses supporters qui se trouvent sur son quiche de campagne, c'est à Palm Beach en Floride. En attendant ce que va dire le président Trump, Mohamedou Oumfa, vous avez quelques résultats concernant la bataille au Sénat et au Congrès.
Oui, Eric Mayrakiza, il faut dire que les Républicains ont repris le contrôle du Sénat. Le basculement a été rendu possible grâce à deux succès électoraux en Virginie-Occidentale et dans l'Ohio. Dans le premier État, le gouverneur Jim Justice, soutenu par Donald Trump, est arrivé en tête face au démocrate Glenn Elliott. Dans le second État, le républicain Bernie Moreno l'a emporté sur le fil contre le démocrate Sherrod Brown, en poste depuis 2007. Alors, à noter que pour la première fois dans ses 235 années d'existence, le Sénat comptera deux femmes noires, Angela Olso Brooks et Lisa Blunt Rochester.
Oui, il y a le président Trump qui commence à parler.
Thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. Help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And
voilà, donc le président Donald Trump qui s'exprime, qui s'adresse à ses partisans, à Timothée Trump, qui...
Oui, il dit que c'est le plus grand mouvement politique jamais vu dans ce pays et que ce mouvement va atteindre un nouveau palier et que ce mouvement va pouvoir aider le pays à guérir, à se remettre, à se développer. Donc, c'est un discours de victoire.
Oui, qui va régler le problème de la frontière et de l'immigration. Il nous reste quelques secondes. Ismaël Diallo, comment vous voyez l'avenir entre l'Amérique et le monde en quelques secondes?
Well, la raison pour laquelle je ne suis pas fâché de voir Trump revenir aux affaires, c'est parce que je pense que c'est un leader qui sort du rang et qui est impulsif et qui fera des choses imprévisibles. Il dira à l'Europe ce qu'elle ne veut pas entendre, il dira à l'Afrique ce qu'elle ne veut pas entendre, il dira au monde arabe ce qu'il ne veut pas entendre, et c'est comme ça que le monde doit bouger.
Merci beaucoup Ismaël Diallo. Malheureusement on n'a pas de temps supplémentaire pour poursuivre cette discussion. Merci Ismaël Diallo, merci Nyakara Goke. Alassane Ndiaye, Thierry Matiko, Joël Vitiello. Merci à Timothée Donangbay, merci à Michel Claire-Joseph, à Mohamedou Oufa. Nous allons revenir dans nos éditions ultérieures sur les détails du discours de Trump et de ce que sa rivale Harris va dire. Au revoir.